Radio Campus Orléans 88.3. Aujourd'hui, mardi 18 octobre, nous avons le plaisir d'accueillir Camini qui est venu faire un reportage pour France 3 Télévisions. Il va nous en dire un petit peu plus. Bonjour Camini.
C'est ça, salut tout le monde, salut Radio Campus, salut les étudiants. Laissez-moi prendre mon souffle. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu sur un campus universitaire. J'ai vu qu'il y avait une barre de traction et j'ai osé faire des tractions. J'ai cru que j'étais encore étudiant, que j'avais le même cardio qu'il y a 20 ans, mais ce n'est plus le cas. Laissez-moi reprendre mon souffle. Je vais très bien, en tout cas, voilà. C'est vrai que je suis venu ici à Radio Campus dans le cadre de mon émission Camini en roue libre sur France 3 Centre-Val-de-Loire. Et c'est vraiment un plaisir de découvrir ou redécouvrir cette radio et cette énergie du campus universitaire.
Alors, tu peux nous rappeler justement le concept de cette émission et puis comment tu en es venu à faire de la télévision?
Alors, le concept de l'émission Camini en roue libre, c'est très simple. C'est un peu l'histoire d'un mec des Hauts-de-France qui découvre le Centre-Val-de-Loire à travers ses gens, à travers sa population et leur passion, ou leur métier. Tu vois, comme aujourd'hui, je suis venu rencontrer des passionnés de radio, mais qui ont un métier à côté, à part Vivi, la bosse de Radio Campus et de l'émission La Classe Internationale. Et donc, je vais à la rencontre des gens dans le Loir-et-Cher, en Indre-et-Loire, en Touraine. Voilà, on peut parler de châteaux, comme de chevaux, comme de cabaret ou comme de radio. Et c'est une émission en roue libre, c'est-à-dire qu'on me laisse... j'ai le droit d'employer le ton qui me chante dans l'émission. Alors après, il y a toujours des codes à respecter. On est sur France 3, on est juste avant le JT. C'est diffusé tous les jours avant le JT sur France 3 Centre-Val-de-Loire. Et donc, il y a quand même des codes à respecter. Mmh. Mais dans l'absolu, j'ai un ton libre. Mmh. Je fais mes vannes. Je fais des très bonnes vannes, d'ailleurs. Pas toujours, je dois l'avouer. Hein, des vannes qui sont pas ouf. Hein. Donc, tu recommences, vous êtes comme ça. Et c'est justement le propre de l'improvisation. Mais donc, voilà, c'est pour ça que je suis là. En tout cas, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
Mais alors, explique-nous justement comment tu en es arrivé à faire de la télévision.
Bah alors, si j'explique mon parcours vite fait...
À la base, on te connaît comme l'auteur de Marly Gaumont,
ouais,
évidemment.
C'est ça, bien sûr. Alors, si j'explique mon parcours vite fait, effectivement, j'ai commencé par ce buzz, Marly Gaumont en 2006. Premier album disque d'or, je sors deux albums. Le deuxième marche moins, embrouillé avec la maison de disques, séparation. Tu disparais un peu des médias, tu vois. Avant, t'étais dans le top du top, t'étais dans l'hyper-médiatisation. C'était trop, d'ailleurs, par rapport à ma personnalité, à ce que je suis... l'hyper-célébrité, ça me convient pas. Moi, je suis un réel artiste de la proximité, un vrai producteur indépendant. Je suis proche des gens et c'est comme ça, et je me sens plus à l'aise comme ça. Et donc, la télé est venue à moi parce que voilà, j'avais déjà ma notoriété, mes buzz, mes tubes, machin, mon background, comme on dit en anglais, background. Mm-hmm. Tu pourras aussi constater que je parle très bien anglais parce que oui. Background, ah, je oui. sais pas si tu le prononces aussi bien que moi, background. On t'écoute, tu vois.
Background.
Ouais, tu vois, t'as bugué. Et donc, du coup, mon background. Et donc, ça a commencé par d'abord. C'est Boise de Pure Prod qui est venu me chercher pour une émission sur France 4 qui s'appelait Assaut de Bienfaiteurs, une émission qui correspond toujours à mon identité. Pourquoi? C'était le concept, c'était aller prendre des jeunes dans un village où il se passe pas grand chose et organiser un événement. C'était juste un one shot sur France 4, cette émission là mais ça m'a permis d'être repéré un peu sur le réseau France Télévisions. Un jour, je suis invité dans une émission Midi en France avec Vincent Ferniaud, l'émission qui a duré pendant des années sur France 3, où ils font le tour des régions, on parle de plats, de culture locale. Et donc j'étais en tant qu'invité, et j'avais fait un carnage dans cette émission à Saint-Quentin, où je sortais vanne sur vanne. Donc à la fin de l'émission, le producteur vient me voir, il me fait « Écoute, moi tu m'as trop fait marrer, là je suis dans les loges, j'ai regardé l'émission en live, tu m'as trop fait marrer, je veux que tu intègres l'équipe de Midi en France. » Je dis « Oui, moi il n'y a pas de problème, mais il faut que je trouve un concept. Je ne viens pas comme ça, moi je saisis les opportunités, mais il faut qu'il y ait un... entre guillemets, un code d'honneur. Je ne peux pas arriver comme ça, comme un opportuniste. Ouais, et il fallait que je trouve un concept. Et je leur ai proposé un concept en fonction des endroits où l'émission se déplaçait chaque jour. J'ai dit, voilà, moi, je vais parler du patois local dans chaque région. L'idée de chronique leur a plu. Et j'ai fait des chroniques pendant un an dans Midi en France. Donc, j'impacte encore plus le réseau France Télévisions jusqu'à ce que Didier Kappelmann crée l'émission Légendéo et que chaque région... de France cherche son ambassadeur et moi on est venu me chercher pour être l'ambassadeur de la région Hauts-de-France avec l'émission Légendéo. Ça fait 5 ans maintenant que j'ai cette émission qui passe sur France 3 Hauts-de-France et aussi au National, et toujours Didier Kappelmann et Pierre Milly qui me dit voilà, on a un créneau de 5 minutes avant le JT sur France 3 Centre-Val-de-Loire, on pense à toi pour venir découvrir la région centre et tu fais le tour, tu rencontres les gens et voilà. Alors, c'est comme ça que je suis arrivé à la télé.
Il y a Mathias qui a une question pour toi.
Salut Mathias.
Bonjour.
J'ai pas dit bonjour Mathias. Donc, salut Mathias, comment ça va?
Mathias en service civique, bonjour.
Mathias, à chaque fois, il dit qu'il est en service civique. Partout où il va. Il va au McDo, bonjour, c'est Mathias, je suis en service civique, je voudrais un Big Mac. C'est extraordinaire.
Est-ce que tu penses que Tu trouves que tu es plus adapté à la télé ou au stand-up? Tu pourrais faire du stand-up?
Bah alors, je fais du stand-up depuis... J'ai commencé en 2012. J'ai un concept qui s'appelle le petit patelin tour. D'ailleurs, avis à tous les patelins qui nous écoutent là en Centre-Val de Loire. J'ai un concept qui s'appelle le petit patelin tour qui me permet de jouer mon one-man show dans des petits villages de 500, 1000 ou 2000 habitants. Aussi bien en café-théâtre. Hein. Je joue aussi dans des grandes villes, en métropole, en café-théâtre et tout. Mais je fais du stand-up depuis 2012. Et j'ai le même spectacle qui évolue, qui change, qui s'interchange, qui s'entrechange. Parce que voilà, il y a de l'actu, donc tu rajoutes des vannes et je fais de l'impro. Mais j'ai envie d'écrire un nouveau spectacle. Mais pour ce faire, il faut que je dégage du temps. Parce que je fais beaucoup de choses. Je fais de la télé, je fais de la scène, j'écris des films, je joue dans des séries, je sors des clips sur YouTube. Donc j'ai beaucoup d'activités. Et j'aimerais bien faire de l'improvisation théâtrale afin de pouvoir découvrir d'autres personnages en moi et écrire un nouveau spectacle. Mais je fais déjà du stand-up. Mais très bonne question, jeune homme.
Mais du coup, il pourrait complètement y avoir des théâtres qui t'accueillent. Et puis aussi, je pense que dans la région des petits villages, ça regorge. Il y a Chessy, il y a Le Bouillon, il y a plein de scènes où tu pourrais passer. Je
vois que tu as bossé tes villages du coin. Hein.
Ouais.
Chessy, Le Bouillon.
Le Bouillon, c'est ici, justement, sur la fac. Du coup, tu pourrais faire... je sais pas si tu continues les concerts à côté.
Concerts, tout à fait, ouais. Moi, je suis vraiment l'artiste indépendant. Je fais de la scène, je fais des concerts, des one-man shows, j'ai mes émissions de télé, j'écris des films, je joue dans des séries. C'est vraiment la vie d'artiste dont j'ai toujours rêvé. Et surtout avec une proximité du public, proche des gens, c'est vraiment ce qui me définit. Voilà, quand j'étais dans l'hypermédiatisation, que je le veuille ou non, l'hypermédiatisation, l'hypercélébrité, c'est un truc qui colle avec des personnalités. C'est intrinsèque à la personne. C'est-à-dire que depuis qu'elle est petite, elle rêve de ça. Et quand elle y est, elle est à l'aise avec ça. Elle le vit bien. Sauf que moi, quand je me suis pris dans la tronche l'hypermédiatisation et l'hypercélébrité, c'était très dur. Je comprenais pas, parce que moi, je suis pas comme les gens. Même si j'avais croisé Michael Jackson dans ma vie, j'aurais été content de le voir, mais c'est tout, quoi. J'aurais pas couru, j'aurais pas crié, j'aurais pas demandé de photos. C'est pas le problème que les gens fassent ça. Mais la personne qui le vit, il faut encaisser ça. Et donc t'as des gens qui sont faits pour ça. On les connaît, on les a tous vus au collège. Ouais, j'ai la nouvelle paire de Nike Air Jordan.
Oui, voilà,
regarde,
ça,
toi tu l'as pas, tu vois. Bon voilà, c'est les gens qui
ont un certain égoïsme.
Voilà,
aussi.
Les gens qui ont une personnalité comme ça, souvent ils vivent très bien l'hypercélébrité. Mais on peut pas leur en vouloir non plus. C'est des caractères, tu vois. Mais moi, quand j'étais entre guillemets hyper médiatique, j'étais dépassé par le truc. Je suis un mec trop normal. Je suis un mec de village, je suis un mec de la campagne, je suis un mec normal. Et c'était trop pour moi. Donc, j'aime beaucoup mon statut actuel, où j'ai de la notoriété, où j'ai une image, où j'ai une forme de célébrité, mais qui me permet à la fois d'être proche des gens, de bosser, de proposer des concepts, de vendre des films, de jouer dans des films, d'avoir un agent. Là, pour moi, c'est l'équilibre parfait. Je suis vraiment bien comme ça.
Non, et tu l'as dit, donc tu aimes les gens, donc il faut aussi qu'ils te laissent le temps de les aimer. Enfin, je veux dire, être adoré comme ça, ça peut faire un peu peur, justement. Quand c'est que tu prends le temps, le temps d'aimer, quand les gens te donnent tellement d'amour comme ça. Enfin, voilà, c'est une relation.
Faut encaisser
voilà.
Tout ça.
Et c'est marrant parce que tu dis... voilà que tu viens de la campagne, j'allais dire, tu représentes un peu cette jeunesse justement, et on en a aussi ici, hein, tu vois, à Chessy, Saint-Denis de l'Hôtel, enfin, on va pas donner tous les noms de patelins, cette jeunesse justement.
J'en donne alors Toury qui et Artenay.
Voilà, cette jeunesse qui vient de la campagne et qui galère. C'est quand même un peu, c'était toujours, alors donc, les gens, tu aimes les gens, ça, voilà, on l'a compris, mais aussi, tu essayes de promouvoir, tu représentes un peu ce jeune qui est très actif, très curieux, et qui a besoin que ça bouge quand même. Enfin, c'est pas pour rien, je pense que tu es animateur, d'ailleurs, à la télévision.
Un exemple que je dis souvent, c'est que, par exemple, moi, je suis né en 79, je suis de la génération années 80, et ce que je dis souvent, c'est que, par exemple, moi, j'ai vu dans ma jeunesse des gens de la campagne, du milieu rural, qui avaient un potentiel de footballeur professionnel qui était extraordinaire. Mais les sélectionneurs, ils vont voir des matchs de foot en Afrique pour recruter des quemés, mais ils venaient pas, dans ma génération, ils venaient pas dans les années 80 voir Marly Gaumont contre le Nouvel Antirache, tu vois, et c'est dommage. C'est-à-dire qu'on nous donne pas forcément notre chance, les gens de la campagne. On est un peu, quelque part, qu'on le veuille ou non, les oubliés du game, quoi. Que ce soit en musique, ce que tu veux, les MJC, c'est arrivé, il y en a maintenant dans la campagne, mais ça a pris du temps. Dans les années 80, t'avais très peu de trucs comme ça. Des MJC, des maisons d'accueil pour les jeunes, où tu peux faire de la musique assistée par ordinateur. Moi, j'ai vu émerger ça dans mon coin à Hirson, près de Marly-Gaumont. C'est arrivé genre en 95-96. C'est hyper tard, tu vois. Tu vois, dans les cités, il y avait déjà des MJC, déjà des trucs pour apprendre à mixer, à la campagne, franchement, on a été démunis très longtemps. Ça va mieux aujourd'hui. J'ai vu aussi dans le milieu rural, dans ma jeunesse, des gamins qui avaient une capacité scolaire extraordinaire, mais les parents, ils savent pas forcément lire, ils ont pas fait d'études, ils travaillent à l'usine du coin sur 4 générations, ils se rendent même pas compte que le gamin il a 17 sur 20 en maths, et c'est mon père qui venait soigner, qui était le médecin de famille, qui dit « Oh, mais votre fils, là, vous savez qu'il a des notes extraordinaires, alors que les chiens aboient toute la journée et que le père rentre alcoolique le soir ?» Et les parents savent pas, on peut pas leur en vouloir, ils savent pas. On leur a pas appris, eux, quand ils étaient enfants, que oui, tu rentres, tu fais les études, tu fais tes fiches, machin et tout. Mmh. Donc à la campagne, il y a aussi des talents, c'est ça que je veux dire, il y a des talents qui sont perdus comme ça dans la nature, mmh, parce qu'on n'a pas l'information, parce qu'on vient pas nous chercher, parce qu'on vient pas nous... Et je vais pas dire c'est mon rôle, j'ai pas de rôle, je suis pas là pour sauver le truc, mais en tout cas, j'essaye de par mon parcours, mon expérience de vie, de donner un peu de la force à des gens qui viennent du milieu là d'où je viens. Et encore, moi, j'ai eu de la chance. Mon papa était doc, tout ça. Il a un certain savoir. Mmh. Mais j'ai vu, quand tu viens du milieu rural et que t'es vraiment pas aidé par personne qui essaie de te tirer vers le haut, te donner accès à la lumière, ou à la formation, c'est dur, quoi. Il y a des talents gâchés. Voilà.
Et c'est marrant parce que ton discours rejoint un petit peu celui des jeunes de ma génération, enfin comme toi, parce que j'étais jeune il y a 15 ans déjà. Quoi.
Cette galère. Je suis encore jeune. M'embarque pas dans ton délire, m'embarque pas dans ton truc.
Mais cette galère que connaissaient les jeunes de la campagne, en fait, on la connaissait aussi dans les quartiers, des fois éloignement justement des structures culturelles, et puis sentiment d'abandon, de ne pas être pris en compte. Et c'est peut-être ça aussi, c'est-à-dire qu'à la fois, tu as su fédérer autour de toi les jeunes de la campagne, mais aussi ceux du quartier qui retrouver les mêmes galères,
les mecs des cités, des quartiers, du ghetto, c'est la même chose. Mmh. C'est des gens qu'on met sur le côté, à qui on donne pas leur chance forcément, et qui sont parfois obligés d'aller chercher à être entendus, pas forcément de la meilleure manière, mais parce qu'on leur laisse pas le choix aussi des fois. Et donc,
Vas-y Mathias.
C'est comme des prisons un peu. Aussi.
C'est un petit peu des prisons prisons sociales quoi. T'es prisonnier de ta condition. Il faut essayer d'en sortir. Et pour ça, t'as besoin parfois de quelqu'un qui vient t'aider, d'une porte qui s'ouvre, d'une main tendue. Et moi, à ma petite échelle, j'essaye de faire ça à travers mes émissions, ma joie de vivre, ma bonne humeur et aussi mes cheveux qui n'ont pas de sens. Mais un jour, ils en auront. Un jour, ça...
Non, puis après, c'est intéressant parce que donc Mathias, tu sais, il est en service civique.
Voilà. Après, je ne l'ai pas dit.
Mathias qui est en service civique, il a le plaisir de te rencontrer. Qu'il ait le plaisir de te rencontrer parce que tu incarnes bien aussi ce qu'est le travail d'animateur, à savoir maître de la vie. C'est ça aussi le travail d'un animateur, et être capable de mettre de la vie dans le poste de télé des gens, dans leur autoradio. C'est un peut-être la ligne de conduite.
Mettre la joie, la bonne humeur, l'envie de partage et donner surtout, redonner le sourire à notre génération qui traverse aussi une période étrange. On est un peu dans un monde parallèle. Hein. Si on m'avait dit en 98, quand on venait de gagner la Coupe du Monde, que j'allais assister aux prémices de l'effondrement entre guillemets de notre société, j'aurais pas cru. Mmh. Et donc là, c'est vrai que c'est le moment de se marrer, de s'amuser et de profiter en espérant que l'avenir n'est pas si sombre qu'il paraît.
Et j'ai une dernière question. Avec mes collègues, quand on parlait de toi avant que tu viennes, on disait Camini, c'est un peu aussi le prémisse du rap de campagne. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Est-ce que tu peux te voir comme ça ? Il y a Orelsan aussi. Qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Ouais, alors déjà, tu as la même voix qu'Orelsan, c'est étrange, que c'est fou. Tu parles je te jure.
Ah, ouais.
Je te jure, même délire. Ah, ça va, il a une voix agréable. Hein. Il vend des millions d'albums, je te rassure. Je suis pas un précurseur. Je pense que le rap a toujours eu plusieurs styles. Tu vois, à l'époque, il y avait Public Enemy, Snoop Dogg, Busta Rhyme, Eminem, la West Coast, East Coast. Il y a toujours eu des styles de rap différents. C'est juste que jusqu'aujourd'hui, maintenant, on assume le côté populaire du rap, le côté éclectique. Tu peux aller de Val, en passant par PNL, ils n'ont pas le même style. Tu peux aller chez Jules, chez Booba, chez Kaaris, chez Kamini. Aujourd'hui, le rap, il s'est complètement démocratisé. Il y a des choses qu'on appelle rap, mais c'est même plus du rap. Il y a des choses qu'on dit c'est urbain, mais c'est même pas urbain, c'est juste de la pop. Aujourd'hui, dans le rap, tu peux chanter, avoir un flow chanté, un flow rappé, un flow parlé. Donc, encore malade, il parle. Les mecs, parfois, ils rappent. Et donc, moi, en tout cas, ce que j'ai essayé de faire, c'est de décomplexer le rap, de dire voilà, peu importe d'où tu viens, t'as une idée, t'as un flow, raconte ton histoire. Sois toi-même, sois authentique. Ne t'invente pas une vie de lascar si t'as pas été lascar. Dis que t'es un lascar si t'as été un lascar. Si t'as fait de la prison, dis-le dans ta chanson. Explique pourquoi c'était nul. Pourquoi tu referais pas ces trucs-là. Pour moi, c'est ça le rap. C'est envoyer des messages positifs à la jeunesse.
Le côté triste et le côté franc.
Le côté triste, franc et festif, c'est un peu de tout. Mais après, c'est à l'artiste de choisir son couloir à un instant T sur une chanson, sur un univers, sur un album. Mais les amis, il faut que je vous laisse. Je suis attendu. Je part sur un autre.
On te libère.
Merci beaucoup.
On te libère.
Les gars.
Merci
salut,
beaucoup.
Salut.